Et aujourd'hui, dans À la Une dans le Monde, Lise, je vous laisse nous présenter votre invité.
Alors, je ne suis pas sûre que beaucoup de nos auditeurs aient besoin que je la présente, mais je suis ravie d'être en ligne ce matin avec Christine Ockrent, journaliste mythique, si j'ose dire, et auteure de L'Empereur et les milliardaires rouges, comment Xi tient la Chine. Bonjour Christine Ockrent, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Bonjour à tous.
Alors, dites-moi Christine Ockrent, d'où vous vient cette fascination pour Xi Jinping ?
La Chine est devenue la deuxième économie du monde et l'homme qui est au pouvoir maintenant depuis plus de 10 ans, qui vient d'être reconduit pour un troisième mandat, ce qui est quasiment sans précédent dans l'histoire contemporaine de la Chine, ne cache plus son ambition de mettre en place à l'échelle du monde un système nouveau sous domination chinoise, un ordre international qui remplacerait celui que l'on connaît dans nos pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a affaire véritablement à un dirigeant qui a tous les pouvoirs d'une dictature qui s'appuie désormais sur les algorithmes et qui a par ailleurs la force économique, les ambitions technologiques et la volonté de puissance, dont on voit pratiquement tous les jours les symboles et les actes.
Tout à fait. Alors, vous disiez que Xi Jinping essayait aussi de mettre la Russie sous sa coupe. Est-ce que ce nouvel axe, Christine Ockrent, entre la Chine, la Russie et l'Iran, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Ben, c'est en tout cas une évidence qu'il faut prendre en compte et qui bouleverse encore une fois l'architecture mondiale telle qu'on l'a trop longtemps connue et telle que nous autres Européens avons, sombré dans un certain confort. Et la guerre en Ukraine nous rappelle avec ses cruautés la triste évidence que la guerre ne disparaît pas d'Europe. Mais s'agissant de la visite spectaculaire de Xi Jinping à Moscou, il y a 2-3 semaines, on a vu l'inversion totale des rapports de force entre la Chine et la Russie. Souvenez-vous, c'est à Moscou que Xi Jinping fait sa toute première visite quand il accède au sommet du pouvoir en Chine en 2012. Eh bien, 11 ans après, il retourne à Moscou et là, le patron, c'est lui. Et en fait, Poutine est devenu une sorte de vassal dont l'économie affaiblie par cette guerre qu'il n'arrive pas à gagner et par les sanctions occidentales, l'économie a besoin de la Chine, qui du coup peut acheter à prix cassé le gaz, le pétrole, le blé, dont Pékin a un énorme besoin. Donc c'est véritablement à la fois symboliquement cette idée que la grande amitié, pas l'alliance, le terme alliance n'est jamais prononcé par Xi Jinping, mais la grande amitié avec Poutine permet à la fois de le traiter d'une certaine manière en obligé et en même temps d'associer la Russie à cette volonté de se substituer à un ordre mondial dominé par les États-Unis.
Alors, une grande partie de votre livre, Christine Ockrent, qui est passionnant, se penche sur les oligarques façon Pékin. Et donc, on voit qu'au départ, ils ont énormément soutenu ce régime de Xi Jinping et qu'au fur et à mesure, il les fait disparaître par des purges proprement effrayantes.
Oui, enfin, c'est pas le système russe. Vous n'avez pas de richissime chinois qui se jette par la fenêtre.
Oui.
Il faut bien voir que en 2 générations, des entrepreneurs, des hommes et d'ailleurs quelques femmes, ont réussi ce tour de force extraordinaire d'extirper la Chine d'une misère noire dans laquelle l'avait plongé en particulier la folie de Mao Tse-Tung. Mais surtout, ce sont des gens qui se sont emparés des espaces de liberté d'entreprendre, entrouverts par Deng Xiaoping, qui a compris dans les années 1980 que son pays était en train de crever. Et donc, dans ces zones économiques que Deng installe, et notamment sur toute la côte sud de la Chine, qui historiquement a toujours été une zone de tradition marchande, eh bien, on voit des milliers de gens qui se précipitent et qui se lancent dans toutes sortes de business. Certains vont devenir et rester milliardaires avec des fortunes absolument colossales, et d'autres, au contraire, vont se casser la figure. Mais ce que l'on voit à l'œuvre, et on le vérifie aujourd'hui, puisque la Chine est devenue la deuxième économie du monde, on voit d'une part la puissance du marché intérieur chinois, 1,4 milliard de gens, et d'autre part, la mise en place de l'usine du monde qui a permis de fabriquer en Chine à très bas prix toutes sortes de biens de consommation dont nous autres, en Occident, nous avons bénéficié, ce qui a d'ailleurs aussi aidé nos propres niveaux de vie. Et donc, ce qui est fascinant dans l'histoire de ces gens, qui est très, très méconnu, enfin, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, à part Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui, lui, a perdu tout pouvoir depuis le moment, il y a à peu près 2 ans et demi, où il a osé mettre en cause la manière dont l'élite financière officielle chinoise gérait l'économie du pays, en disant franchement, vous ne savez pas vous y prendre, et bien 3 jours après, il disparaissait. Il a réapparu, il vit maintenant en exil, en fait, il vit à Tokyo la plupart du temps. Il est certainement resté immensément riche, mais il a perdu tout pouvoir sur le groupe Alibaba. Et ce qui est fascinant, et c'est ce que je m'efforce de raconter dans mon livre, c'est la manière dont Xi Jinping, quand il arrive au pouvoir, d'abord, il lance une campagne contre la corruption qui avait pris une ampleur énorme sous ses prédécesseurs, une corruption qui atteint autant les officiels du Parti communiste qui contrôlent tout en Chine. Il faut bien comprendre que c'est un système qui repose essentiellement sur le Parti communiste, et l'obsession de Xi Jinping, c'est de continuer à le renforcer pour éviter ce qui s'est passé en Union soviétique, c'est-à-dire l'écroulement de l'URSS parce que décomposition du Parti communiste soviétique. Mais pour en revenir à la Chine, Xi Jinping mène des campagnes d'épuration au sein du Parti communiste, et aussi il frappe quand il pense que c'est important en termes de symboles ou aussi pour essayer de contrôler des ambitions qui pourraient nuire au parti et au régime. Là, effectivement, il tape, si j'ose dire, il frappe quelques dirigeants emblématiques dans certains secteurs. Mais l'homme le plus riche de Chine, par exemple, on en a à peine entendu parler, c'est le roi de l'eau minérale qui a édifié une fortune absolument colossale, qu'il a évidemment après... Il a diversifié ses investissements, mais ce sont des parcours tout à fait étonnants.
Oui, tout à fait. Ma dernière question, Christine Ockrent. La semaine dernière, on a vu un vaste exercice militaire qui, grosso modo, avait pour but de faire peur à Taïwan. On a l'impression que Xi Jinping ne craint personne et fait ce qu'il veut en toute impunité en ce moment, non ?
Ces exercices militaires, c'est de la gesticulation. La Chine montre ses muscles chaque fois qu'un dirigeant taïwanais rencontre une personnalité politique américaine de premier plan. Et il se trouve que la présidente démocratiquement élue de Taïwan était en Californie, où elle a rencontré le patron de la Chambre des représentants du Congrès américain. Donc, De la même manière que Pékin l'avait fait à plus grande échelle encore, quand Nancy Pelosi, démocrate, s'était rendue à Taïwan, on a vu ces manœuvres militaires, navales et aériennes, tout à fait spectaculaires. Mais il faut bien se rendre compte que la puissance militaire de la Chine est considérable. 7% du budget chaque année sont consacrés à son renforcement. Mais elle reste bien moindre que celle des États-Unis. Et les États-Unis renforcent depuis des années leur présence militaire dans l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, le vrai danger, il est là, c'est qu'il y ait en fait un accident, un accrochage dont personne finalement ne souhaiterait qu'il crée cette espèce d'engrenage fatal. Mais il est certain que c'est dans cette partie-là du monde où circule une bonne partie du commerce international, où se créent les semi-conducteurs, Taïwan, premier producteur mondial, semi-conducteurs, tous ces chips que nous avons dans les objets du quotidien et qui sont indispensables aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ce sont des enjeux énormes dont nous autres Européens, nous ne pouvons pas nous détourner.
Merci beaucoup Christine O'Crane pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous venez de sortir un livre qui s'appelle « L'Empereur et les milliardaires rouges, comment Xi tient la Chine » aux éditions de l'Observatoire. Une très bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Merci Christine O'Crane pour cet échange très intéressant.